France Culture.
18h sur France Culture, le journal Mathilde Cariou. Bonsoir Mathilde.
Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Les Républicains disent oui à Sébastien Lecornu. LR fera bien partie de la coalition gouvernementale. Le Premier ministre peut désormais publier son casting. L'annonce est prévue dans la soirée. Un échange immédiat d'otages et de détenus, c'est la condition du Hamas pour discuter avec Israël. Les négociations se préparent en Égypte autour du plan de paix de Donald Trump. Vous entendrez également les familles d'otages dans l'attente insupportable de nouvelles de leurs proches. Et puis, ni pro-Israël, ni pro-Palestine, les militants pour une paix juste se mobilisent à Paris sans grand espoir d'être entendus. Ils ont hésité toute la journée avant de se mettre d'accord. Les Républicains prendront bien part au gouvernement de Sébastien Lecornu. C'était un peu le dernier verrou avant l'annonce du gouvernement qui devrait donc tomber dans les heures à venir. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir Mathilde.
Le socle commun rentre donc dans le rang après avoir fait monter la pression tout au long de l'après-midi.
Oui, et ce n'est pas faute de les avoir tous reçus et plusieurs fois depuis qu'il est à Matignon. Sébastien Lecornu a tenté dès le début d'unifier son propre camp, les partis représentés dans le précédent gouvernement. Mais ses gestes, en direction de la gauche socialiste notamment, ont fait naître quelques inquiétudes au centre et effectivement à droite surtout. Les LR premiers a haussé le ton, a réclamé des clarifications et a réétalé leur division. Avec ces deux lignes qui s'affrontent depuis des mois, celle du ministre et patron du parti Bruno Retailleau pour rester au gouvernement et continuer d'exister, celle de Laurent Wauquiez, chef des députés, contre la poursuite de l'aventure pour éviter d'apparaître comme la béquille d'un macronisme faiblissant. C'est donc la première qui s'est imposée. Après 2h30 de réunion, les LR ont acté le principe d'une participation dite exigeante. Même si d'autres ont donc tenté de montrer les muscles aujourd'hui, le Modem, l'UDI par exemple, intrigué par le flou, disent-ils, du courrier envoyé hier soir par le Premier ministre pour tenter de rassurer chaque composante de la fragile coalition censée le soutenir, c'est bien vers les LR que tous les regards se sont tournés et les jugements aussi. Franchement, c'est la honte, soupire un conseiller chez Renaissance. Une dramatique mise en scène pour obtenir plus de postes, juge un député centriste. Affligeant, embraye un président de commission qui rappelle que pendant qu'à la maison, chacun joue à se faire peur. Dehors, la gauche continue de brandir la menace d'une motion de censure dès la déclaration de politique générale du Premier ministre, mardi, et que, compte tenu du triste spectacle donné, le gouvernement, qui finira par être nommé, pourrait bien être le plus éphémère de la Ve République.
Merci Rosalie Lafarge. Et selon les informations du Parisien, la composition du gouvernement devrait être annoncée en deux temps. Une première partie ce soir, nous reviendrons vers vous le cas échéant, et une seconde mardi après la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu. Au Proche-Orient, les négociations pour une paix à Gaza doivent commencer demain en Égypte entre le Hamas et les représentants israéliens. L'objectif premier est d'arriver à un échange d'otages israéliens, de prisonniers palestiniens. Thibault Lefèvre, vous suivez ces négociations depuis Jérusalem. Aujourd'hui, c'était les derniers préparatifs et le tout se met progressivement en place.
L'essentiel de la délégation israélienne arrivera ce soir en Égypte. À sa tête, l'éminence grise de Netanyahou pour les affaires internationales. Il s'appelle Ron Dermer. Il ne devrait cependant pas participer aux premières discussions. Cette délégation rejoindra les représentants du Hamas et notamment son négociateur en chef, Khalil Alaya. Personne ne se croisera ou ne se parlera directement car les médiateurs mèneront les négociations avec cependant cette fois un engagement inédit des Américains et ce casting XXL. Deux proches de Donald Trump, son ami Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner. L'enjeu est simple, s'accorder d'abord sur les conditions d'un cessez-le-feu pour ensuite rendre possible dans les 72 heures un échange d'otages et de prisonniers. Les modalités sont évidemment plus compliquées à définir avec cette question. Quelles garanties vont devoir apporter les Israéliens pour convaincre le Hamas de libérer les 48 derniers otages dont une vingtaine présumés vivants qui constituent aujourd'hui son dernier levier dans ces négociations.
En Israël, le Forum des familles d'otages a demandé un rendez-vous à Benjamin Netanyahou pour être tenu au courant des avancées des négociations. Plusieurs d'entre elles sont actuellement réunies à Jérusalem où vous vous trouvez Marie-Pierre Véraud. Le lieu, la date, la forme aujourd'hui, tout est symbolique.
Nous sommes à la veille de Soukhot, une fête majeure, la fête des cabanes, qui commémore l'exode dans le désert du peuple juif en quête de la terre promise. Et la tradition, c'est de construire des cabanes éphémères. Les familles d'otages sont particulièrement mobilisées. Elles ont érigé une cabane comme une tente recouverte de feuillage et des photos de leurs proches, à quelques mètres à peine de la résidence du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Oudi Goren est le cousin d'un otage tué le 7 octobre et dont la dépouille a été emmenée à Gaza.
Il y a 2 ans, lorsque le 7 octobre est arrivé et que la guerre a éclaté, c'était Sukkot. Et beaucoup d'habitants des kibbutz ont gardé en place la cabane qu'ils avaient construite ce jour-là. C'est la même que lorsque le Hamas a lancé son attaque. Et c'est très symbolique aujourd'hui. Alors que nous parlons de la fin de cette catastrophe, nous avons construit cette cabane ici, devant la résidence du Premier ministre, parce que nous voulons qu'ils sachent que nous n'avons toujours pas de maison. Il nous manque quelque chose. Le temps est comme suspendu et le restera tant que tout le monde ne sera pas rentré.
Les parents d'otages vont se succéder pour dormir ici jusqu'au retour de tous leurs proches. Ils appellent la population à les rejoindre avec des sacs de couchage pour que Netanyahou lance la mère de otage qui serait encore en vie. Voit notre force immense. C'est maintenant ou jamais, répètent les familles, qu'ils doivent tous rentrer à la maison. Un sentiment d'urgence, la conviction aussi que si cet accord échoue, comme les précédents, c'en sera fini et la région entière plongera dans l'horreur. D'où une tension dans les réunions qui se succèdent ici à Jérusalem, comme à Tel Aviv, sur la place des otages, à 2 jours de l'anniversaire du 7 octobre.
Marie-Pierre Véraud, envoyée spéciale à Jérusalem pour France Culture. À Paris également, 3000 personnes ont défilé à l'appel du collectif Tous 7 octobre. Drapeaux israéliens et photos des otages à la main. Ils réclament la libération des 48 personnes encore retenues par le Hamas. Et puis, un autre rassemblement avait lieu à Paris, place de la Sorbonne, cette fois à l'appel de plusieurs associations, la Ligue des droits de l'homme, SOS Racisme. Bonsoir Lou Momège. Bonsoir. Ni pro-Israël, ni pro-Palestine, ces manifestants, peu nombreux, il faut le dire, réclament une paix juste.
Oui, malgré les négociations qui se profilent en Égypte, difficile pour ces militants de se montrer optimistes. Charles Boina, du réseau d'action contre l'antisémitisme et tous les racismes, se tient un petit peu à l'écart du rassemblement. Lui veut rester réaliste.
On s'accroche à moins de petit espoir. Alors si effectivement la libération des otages peut permettre une renégociation sur l'avenir, c'est-à-dire les rapports entre les Palestiniens et les Israéliens, pourquoi pas, hein. Mais il faut être lucide aussi. Pour le moment, on n'a pas encore le moindre soupçon de preuve comme quoi on va dans le bon sens, quoi.
Le Hamas s'est dit prêt vendredi à libérer tous les otages israéliens, mais Israël n'a de son côté pas cessé de bombarder Gaza. C'est pourtant ce que demandait Donald Trump dans son plan pour mettre un terme à la guerre. Une initiative américaine bienvenue, mais qui reste brumeuse et assez peu équitable selon Albert Herskovitch. Il co-préside l'association Standing Together en France.
On espère aller bien au-delà du plan Trump, qui est un plan à la Trump, si je puis dire. C'est-à-dire, il y a des exigences immédiates, la libération des otages, et toutes les mesures positives pour la population palestinienne sont repoussées à très loin. Un jour, on reconstruira, un jour, il y aura peut-être un État palestinien, un jour, etc., etc. Si vous regardez les 20 points de Trump, vous verrez qu'il y a vraiment une énorme différence entre ce qui est immédiat et ce qui est à long terme.
Pour de nombreux militants, il faut donc bâtir une paix durable et se tourner vers une solution à 2 États. Mais l'objectif paraît compliqué, d'une part avec un gouvernement israélien sous influence de l'extrême droite, mais aussi avec le Hamas qui s'est érigé en porte-parole de la cause palestinienne.
Merci Lou Momège. Une troisième mobilisation avait lieu sous les fenêtres de Matignon en soutien aux militants interceptés par Israël à bord de la flottille pour Gaza. La France insoumise est sans nouvelles des 4 élus arrêtés en fin de semaine. D'après Manon Aubry, eurodéputée du groupe, les avocats chargés des ressortissants français se sont vus refuser l'accès à la prison de Negev. Plusieurs détenus ont entamé une grève de la faim. Sur le front de la guerre en Ukraine, plus de 500 drones ont été lancés par la Russie la nuit dernière, une 50aine de missiles également. Le gouvernement ukrainien appelle de nouveau l'Europe et les États-Unis à l'aide pour, je cite, forcer Poutine à s'arrêter. Et puis le PNAT, le parquet national antiterroriste français, ouvre une enquête pour crime de guerre après la mort d'Anthony Lalikan, photojournaliste français tué par un drone en Ukraine. La Russie continue de cibler délibérément les journalistes, dénonce le ministre ukrainien des Affaires étrangères. Un mot du temps pour demain. Le ciel se dégage encore un peu plus. On a du soleil au sud à l'ouest. Quelques nuages qui restent tout de même dans l'est. Les températures sont comprises entre 10 et 19 degrés. Il fait 14 à Lille, Brest, Paris, Nantes, 15 à Biarritz, 17 à Marseille. Et 19, les maximales, c'est du côté de Nice.